Grain de sel, une émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est Frédéric, vous êtes sur RVM Radio Valois-Mulsien. Le 12 octobre 2023 a eu lieu à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris le prix Jeunes Talents France 2023, L'Oréal UNESCO, pour les femmes et la science. 35 jeunes chercheuses d'exception ont été primées, dont Élise Verrier, originaire de Crépy-en-Valois et habitant Reuteuil, dans l'Aisne. Bonjour Élise.
Bonjour Frédéric.
Vous avez fait vos études à l'université Jules Verne à Amiens et à l'université de Paris-Saclay et avez obtenu un post-doctorat en écologie comportementale. Après un doctorat en écologie théorique sur le comportement de butinage des pollinisateurs. C'est difficile à dire.
Exactement, mais c'est exactement ça.
Alors, comment devient-on chercheuse, Élise ?
Alors, pour devenir chercheur, il faut avoir une thèse, il faut faire 8 ans d'études. Après, ce que je dis toujours, c'est que 8 ans d'études, en réalité, c'est 5 ans d'études conventionnelles, où on est effectivement assis dans les amphis et on étudie. Mais la thèse, en fait, c'est déjà un premier travail. On fait déjà un travail de recherche pendant la thèse. Il faut faire, pour devenir chercheur, aller jusqu'au master et ensuite réaliser une thèse. Donc en France, les thèses se font en 3 ans en moyenne. Et à la fin de la thèse, vous avez le grade de docteur qui vous permet de faire de la recherche.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette direction ?
J'ai toujours été attirée par la biologie. Ce que je préférais à l'école, c'était la SVT, au collège et au lycée. Donc je me suis naturellement orientée vers des études en biologie après le bac. En troisième année de licence, j'ai découvert ce qu'on appelle l'écologie comportementale. Donc c'est l'étude du comportement des animaux, mais dans leur environnement naturel. Et d'un point de vue plutôt évolutif. On essaye de comprendre comment, au cours de l'évolution, ces comportements sont apparus. Par exemple, on va étudier les parades des oiseaux, on va étudier comment les oiseaux font leur nid, on va étudier comment les pollinisateurs vont choisir les fleurs qu'ils vont butiner. On essaye de comprendre le comportement vraiment dans l'environnement naturel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans l'écologie comportementale. Et en parallèle de ça, je me suis rapidement intéressée aux insectes, parce que les insectes, c'est un monde qui est très très différent du nôtre. Et j'ai découvert que finalement, on n'y connaissait pas grand-chose. Il y avait plein de choses qu'on ne comprenait pas encore sur les insectes. J'ai voulu en savoir plus. Et finalement, la recherche, c'est le métier qui permet d'étudier et de comprendre ce qui nous entoure. Pour faire un gros résumé de la recherche, c'est ça. Le but, c'est de comprendre comment fonctionnent les choses autour de nous. J'essaye de comprendre le comportement des insectes. Et après, je me suis spécialisée dans les pollinisateurs. Parce que les pollinisateurs, enfin les insectes pollinisateurs, il n'y a pas que des insectes qui font de la pollinisation, mais notamment les insectes pollinisateurs, c'est quand même assez improbable de se dire qu'on a une espèce qui va être responsable de la reproduction d'une autre espèce qui n'a absolument rien à voir. Les pollinisateurs, aujourd'hui, sont responsables de la reproduction de plantes à fleurs, et pourtant, enfin, ça n'a absolument rien à voir, et je trouvais ça fascinant, surtout que ça peut avoir des conséquences en cascade, suivant comment les pollinisateurs se comportent. On peut avoir des changements après dans le paysage. Donc c'est vraiment hyper intéressant d'un point de vue scientifique, curiosité scientifique. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ils sont un peu mis sur le devant de la scène parce qu'on a une perte importante d'abondance, mais aussi de diversité des pollinisateurs. Et les pollinisateurs sont responsables de la reproduction d'environ 90% des espèces de plantes sauvages à fleurs. On estime que 35% du volume de production agricole que l'on a pour l'alimentation humaine dépendent de la pollinisation. Donc, si on a une disparition des pollinisateurs, ça peut mettre en danger notre sécurité alimentaire. En tant que chercheuse, j'ai aussi un rôle à jouer face aux crises que l'on traverse et permettre d'acquérir les connaissances pour faire face à cette crise.
Vous avez été lauréate pour votre travail « Lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs ». Vous avez bien expliqué le pourquoi, cet intérêt pour ces insectes. Comment a-t-on découvert l'effondrement des colonies d'abeilles et depuis quand c'est inquiétant ?
Alors, on observe une une perte des pollinisateurs à tous les niveaux. Donc toutes les espèces de pollinisateurs, que ce soit les abeilles sauvages, les bourdons, les cifres, enfin on a vraiment une perte des insectes en général et des insectes pollinisateurs. Dans les insectes pollinisateurs, on a les abeilles, l'abeille mellifère, Apis mellifera, qui est utilisée aussi en apiculture pour la production de miel. Et les apiculteurs constatent depuis plusieurs décennies une mortalité très importante de leurs abeilles en hiver. On peut observer une perte du cheptel entre 25 à 50% du cheptel, ce qui est énorme. Pour l'oise, l'hiver dernier, on a des chiffres qui sont en moyenne plus de 35% du cheptel qui n'a pas survécu à l'hiver. Donc c'est des chiffres qui sont assez importants et c'est compliqué pour les apiculteurs de comprendre ce qui se passe. En fait, pendant l'hiver, les abeilles, elles se regroupent dans la ruche et elles forment une grappe pour se maintenir au chaud. Donc on dit qu'elles thermorégulent. Et autour de cette grappe d'abeilles, dans la périphérie, on va avoir à peu près 11 degrés. Et à l'intérieur de la grappe, on va avoir à peu près une vingtaine de degrés. Même s'il fait moins 5 dehors, même s'il fait moins 10 dehors, on aura environ 11 degrés en extérieur de la grappe et 20 degrés à l'intérieur. Donc les apiculteurs, ils ne peuvent pas ouvrir les ruches en hiver pour voir ce qui s'y passe, parce que s'ils ouvrent les ruches, ils vont faire rentrer du froid et ils vont complètement perturber cette thermorégulation et ils risquent de tuer leurs abeilles. Donc généralement, les apiculteurs, à la fin de l'été, début de l'automne, suivant les conditions climatiques, ils vont vérifier une dernière fois l'état de leur colonie, voir comment elle se porte, ils referment et ils viendront qu'au printemps suivant voir si la colonie a survécu à l'hiver. Donc on a un problème qui est qu'on a une très forte mortalité durant l'hiver et les apiculteurs ne savent pas ce qui se passe durant l'hiver. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on observe vraiment cette forte mortalité des abeilles. Il y a toujours eu de la mortalité hivernale. C'est beaucoup plus important ces dernières décennies.
Et on sait pourquoi ?
Alors, il y a différents facteurs qui jouent. En gros, on peut avoir deux possibilités. Soit la colonie n'était pas dans un bon état quand elle est rentrée en hiver. Il n'y avait pas assez de réserves, elle n'était pas assez forte, il n'y avait pas assez de population, elle n'était pas dans un très bon état de santé, elle était parasitée, il y avait peut-être des maladies. En entrant en hiver, la colonie n'a pas les ressources, la capacité de passer l'hiver. Donc ça, c'est une possibilité. Et nous, notre hypothèse qu'on a actuellement, c'est que pendant l'hiver, il peut y avoir des événements exceptionnels qui vont perturber le comportement des abeilles en hiver. Donc cette thermorégulation et en perturbant le comportement des abeilles, eh bien, vont peut-être pas être capables de retrouver un comportement traditionnel et ça peut mener à l'effondrement de la colonie. Et c'est sur ça qu'on travaille avec mes collègues actuellement pour essayer de comprendre si on a des changements de comportement suite à des événements stressants pour les abeilles.
Que se passerait-il si les abeilles disparaissaient ?
Ce qui risque d'arriver si jamais ça disparaît, c'est qu'on va avoir un déficit au niveau de la pollinisation. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on estime qu'il y a 35% du volume de production qui est dépendant de la pollinisation. Mais sur ce volume, il y a aussi des petites choses qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est que la pollinisation permet notamment la production de fruits, donc ça veut dire des vitamines, des micronutriments, etc. Donc ça va attaquer aussi des choses dont on a besoin, nous, pour vivre, donc ça va vraiment mettre en danger notre sécurité alimentaire à l'échelle mondiale et notre santé, tout simplement.
J'ai lu un article sur des gens qui avaient trouvé une façon de polliniser avec une technique pas naturelle.
Alors, il y a des choses qui sont testées un peu partout. Il y a des startups qui essayent notamment de développer des espèces de mini-drones pour aller polliniser les fleurs. Ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est qu'aujourd'hui, la pollinisation, on ne la paye pas. Les agriculteurs ne payent pas pour la pollinisation. C'est un service que la nature nous rend gratuitement. Si demain, les agriculteurs doivent acheter des drones pour polliniser leurs plantes, ça va être déjà compliqué. Après, les résultats, ils sont pas forcément toujours très bons. Je sais que parfois, ça traîne sur les réseaux sociaux des histoires de pollinisation manuelle, donc on irait à la main polliniser. J'ai une collègue qui fait actuellement de la pollinisation manuelle pour une expérience, pour voir justement la différence entre de la pollinisation manuelle et avec les insectes pollinisateurs. Je peux vous dire tout de suite qu'on n'est pas du tout rentable. On est très mauvais en pollinisation manuelle. Même en prenant un petit pinceau, en essayant d'être précis, les insectes pollinisateurs font bien mieux que nous et le font gratuitement. C'est bien d'essayer de trouver des solutions aussi et justement de se dire si jamais tout s'écroule, qu'est-ce qu'on fait ? Mais peut-être que la priorité, ça serait de se dire on a un truc qui fonctionne super bien, pas cher, autant le protéger, faire notre maximum pour que ça tienne jusqu'au bout.
Bah justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution pour lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs ?
Concrètement, je sais qu'il y a eu une vague à un moment donné où on mettait des ruches partout, en se disant on va protéger les insectes pollinisateurs, il n'y en a plus, donc on va mettre des ruches partout. C'est pas une très bonne idée parce que bah, s'il n'y a plus beaucoup d'insectes, c'est parce qu'il n'y a pas forcément les ressources, c'est parce que l'environnement n'est pas forcément adéquat. Donc si vous rajoutez une ruche, vous allez rajouter plus de pression encore. Vraiment à l'échelle individuelle, ce que je recommande, c'est de planter des fleurs tout simplement et permettre de donner des ressources aux pollinisateurs pour qu'ils puissent continuer à faire leur vie, quoi. Donc planter des fleurs.
Les auditeurs et auditrices, planter des fleurs, c'est quand même une action plutôt sympathique. J'ai vu que vous aviez le projet Bee Connected, qui veut dire en français abeilles connectées. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et auditrices ce que c'est et puis comment on peut connecter des abeilles ? Et ça sert à quoi ?
Je travaille effectivement pour le projet Bee Connected, qui est porté par un chercheur de l'Institut de recherche pour le développement, Fabrice Requier, qui est le coordinateur du projet. C'est un projet à l'échelle européenne. On a des partenaires pour nous, la France, mais aussi en Allemagne et en Grèce. Et ce projet Bee Connected, bon, c'est vrai, comme ça, on se dit, on va connecter des abeilles. On connecte plutôt des ruches que des abeilles. Et on travaille vraiment sur la mortalité hivernale des abeilles. On essaie de comprendre ce qui se passe en hiver dans les ruches. Quand les apiculteurs ne peuvent pas ouvrir, qu'est-ce qui se passe ? Pour ma partie du projet, moi, j'étudie ce qu'on appelle des capteurs. Voilà, on a mis des capteurs de poids sous les ruches. Donc, c'est des balances, tout simplement, où on mesure le poids toutes les 5 minutes de la ruche pendant tout l'hiver. Et quand on mesure le poids de la ruche, on peut voir à quelle vitesse les abeilles consomment leur miel. Et si jamais on a un événement stressant, est-ce que leur consommation de miel va changer ? Est-ce qu'elles vont en consommer plus, en consommer moins ? Et on peut aussi voir quand on a un calme plat au niveau du poids, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'activité, que probablement la ruche n'a pas survécu en hiver. Ça nous permet aussi de voir ça. Et on a un autre type de capteurs, qui sont des capteurs de température. J'ai des collègues qui ont développé ce qu'on nous on appelle des cadres connectés. Alors je sais que les personnes qui travaillent plus en électronique ou en informatique vont dire « mais c'est absolument pas connecté du tout ». Mais nous, on aime bien l'appeler comme ça. Ils ont incrusté dans un cadre de ruche traditionnelle, donc utilisent les apiculteurs de façon traditionnelle, sauf qu'ils ont mis 12 capteurs de température dans les cadres. On a 12 points dans le cadre où on prend la température. Cette température, elle est intéressante à prendre parce que, comme j'ai dit, la grappe d'abeilles, elle maintient une température d'entre 11 et 20 degrés. Et dans la ruche, il ne fait pas entre 11 et 20 degrés. Donc par exemple, si vous avez 0 à l'extérieur de la ruche, il y a une petite isolation thermique avec le bois, mais en gros, vous n'allez pas dépasser les 5 degrés à l'intérieur de la ruche. Donc à certains endroits, les capteurs de température, ils vont nous indiquer environ 5 degrés. Et à d'autres endroits, on va avoir entre 11 et 20 degrés. Donc quand on a entre 11 et 20 degrés, c'est que les abeilles, elles sont présentes dans la ruche. Et là, c'est pareil, on enregistre la température toutes les 5 minutes. Et avec ces températures de où sont les abeilles, on peut dessiner la grappe d'abeilles. On peut voir où elle est. Et vu qu'on a un enregistrement toutes les 5 minutes, on peut voir si elle se déplace, si elle se déplace vite, si elle grossit, si elle réduit, si elle change de forme, voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans la ruche en hiver. Et une fois qu'on a étudié les comportements de base sur la consommation de miel, sur le déplacement de la grappe en hiver, pour les colonies qui ont survécu, donc on va avoir des patrons de comportement, on va étudier après les colonies qui n'ont pas survécu et on va comparer avec celles qui ont survécu et voir si on a eu des changements de comportement. Et si on a eu des changements de comportement, est-ce que ces changements de comportement sont à l'origine de l'effondrement de la colonie ? Et est-ce que ces changements de comportement vont dépendre d'un événement extrême ? Par exemple, une super belle journée en plein mois de décembre, quand on a 15 degrés autour de Noël, est-ce que ce type d'événement peut affecter le comportement des abeilles et entraîner son effondrement ?
Est-ce que ça peut gêner les abeilles, justement, ce réchauffement climatique ?
J'étudie pas le réchauffement climatique. Mmh. On regarde vraiment les journées chaudes, etc. Mais je suis pas climatologue. Je peux pas faire le lien avec le réchauffement climatique. Ce qu'on observe, c'est que parfois, on a des journées plus chaudes. Ce qui a alerté le porteur de projet, c'est que on a des apiculteurs qui nous ont dit, en fait, quand il fait chaud, j'ai vu mes abeilles sortir de la ruche. Sauf que normalement, en hiver, elles ne sortent pas. C'est pour ça aussi qu'on s'est un peu orienté vers les journées chaudes, parce que les apiculteurs qui nous avaient dit bah, « je les vois sortir et c'est pas normal », en se disant que bah, peut-être on a quelque chose là. Après, je suis en train d'analyser les résultats, donc peut-être qu'il se trouve que c'est un hasard. C'est pas un hasard, mais qu'elles sortent, et en fait, c'est pas cette sortie qui va causer l'effondrement de la colonie, ce sera autre chose. Nous, notre hypothèse, c'est qu'effectivement, les journées chaudes vont modifier le comportement des abeilles, mais c'est une hypothèse de travail, on est en train d'analyser les résultats, et peut-être que c'est pas du tout ça, et voilà, on verra. En fait, on se pose des questions que personne ne s'est posées, et on essaye d'y répondre avec ce qu'on pense par rapport à ce qu'on a lu, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on nous a dit, être une possibilité de réponse, mais en fait, on n'en est absolument pas sûr. La recherche, c'est beaucoup d'essais, d'erreurs, de choses qui ne fonctionnent pas avant qu'on arrive à trouver des solutions et des réponses à nos questions. Là, c'est notre hypothèse. Je suis en train de récupérer les données, d'analyser les résultats, et peut-être que je vais vous dire dans un an, bah non, en fait, ça marche pas du tout. Actuellement, c'est notre hypothèse. J'ai aucun résultat pour vous prouver mon hypothèse. Peut-être dans un an, mais pas sûr.
Vous écoutez Élise Verrier, chercheuse d'exception en écologie comportementale. Est-ce qu'il y a d'autres chercheurs, chercheuses comme vous qui font des recherches autour de cette disparition d'abeilles?
Il y a beaucoup de recherches, bah déjà rien que sur le projet Bee Connected. En France, nous sommes 4. Les équipes en Grèce sont 3 et en Allemagne, ils sont 5 ou 6. Donc il y a déjà plusieurs équipes. Mais après, il y a aussi des recherches à Avignon, pas mal aussi, qui travaillent sur l'abeille. Dans le laboratoire dans lequel je suis, il y a une autre équipe qui travaille plutôt sur l'impact des pesticides. Donc c'est pas du tout le projet Bee Connected, mais c'est d'autres projets. L'abeille est un sujet important en recherche, en tout cas dans mon domaine de recherche. Après, on est toujours biaisé parce qu'on voit un peu ce qui nous concerne. Mais effectivement, il y a pas mal de recherches qui se passent à différents endroits. À Tours aussi, ils commencent à faire des recherches sur les abeilles. L'avantage de travailler sur l'abeille mellifère qu'utilisent les apiculteurs, c'est que justement elle est utilisée par les apiculteurs et qu'elle s'élève bien, on la comprend bien, on sait où la trouver, on sait comment ça fonctionne. C'est un organisme modèle intéressant pour étudier les pollinisateurs parce qu'il y a plein de pollinisateurs sauvages qui sont des abeilles solitaires par exemple, qu'on ne sait pas forcément bien trouver, qu'on ne sait pas forcément bien étudier. C'est des protocoles qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place. Faire les études sur les pollinisateurs en commençant par l'abeille mellifère, c'est de se dire, c'est pas les mêmes espèces, mais c'est possible que ce qu'on trouve comme impact sur l'abeille mellifère, qui est facile d'accès au niveau des études, soit transposable aux autres espèces de pollinisateurs, et ça peut nous donner des pistes de réflexion pour protéger l'ensemble des pollinisateurs, et pas seulement les abeilles mellifères.
Souvent, on dit que les frelons asiatiques sont néfastes pour les abeilles. Est-ce que c'est une vérité?
Je pense que là, actuellement, les apiculteurs, ils vont dire oui, plus, plus, plus. En gros, les frelons asiatiques, ils ont besoin de protéines pour nourrir leurs larves. Ils vont chercher des protéines où il y en a. En été, il y a plein d'insectes qui se baladent partout. C'est pas si grave pour les abeilles, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'insectes partout.
Ils ne choisissent pas que les abeilles.
Ils ne choisissent pas que les abeilles. Ils vont un peu partout. Arrivé à l'automne, on a pas mal d'insectes qui ne sont plus dans le coin, qui sont dans des stades de dormance ou de diapause ou des choses comme ça, et du coup ne sont plus accessibles. Donc les frelons asiatiques, ils vont chercher des protéines là où il y en a. Et il se trouve que les ruches, ça ressemble un peu à un supermarché. Il y a 5 ruches alignées et les abeilles, elles font des allers-retours pour aller chercher des ressources. Donc ils se mettent devant la ruche et ils attendent les abeilles. Donc c'est vrai qu'à l'automne, c'est vraiment très problématique pour les apiculteurs. Peut-être aussi au début du printemps, peut-être quand il y a moins d'autres insectes. Mais c'est vraiment là en ce moment, à l'automne, surtout quand l'été continue à durer, que les abeilles sont encore en activité et les frelons asiatiques aussi, et qu'il y a pas mal d'autres espèces qui sont dans une autre phase de leur cycle de vie. Oui, c'est une pression importante sur les abeilles et les apiculteurs.
C'est la nature qui fait les choses, ou c'est vraiment l'arrivée de ce frelon qui fait que problème?
On a effectivement l'arrivée du frelon asiatique, qui s'est très très bien adapté. Donc c'est une espèce qu'on appelle exotique envahissante. Il ne vient pas de chez nous. Donc les abeilles, elles n'ont pas coévolué avec le frelon. Elles n'ont pas mis en place les stratégies pour se défendre face au frelon au cours des temps évolutifs. Et il se trouve que là, dans ce schéma-là, le frelon a l'avantage sur l'abeille. Et pour le moment, c'est assez difficile pour les abeilles de vivre avec lui et de se défendre. Après, c'est vrai que le frelon asiatique a aussi c'est bien propagé et installé maintenant sur l'ensemble du territoire. Que ça soit l'abeille ou le frelon asiatique, quand on a des étés qui traînent un peu, enfin ça va être les périodes vraiment difficiles parce que moins d'insectes autres, les frelons asiatiques en profitent vraiment au niveau des ruches, quoi. Et c'est la période qui est cruciale aussi pour les abeilles parce qu'elles sont en train de faire leurs réserves pour l'hiver.
Élise Verrier, vous êtes aussi une femme.
Oui.
Est-ce que c'est difficile d'être une femme scientifique ?
Moi, j'ai eu de la chance. J'ai toujours été bien entourée dans mon parcours, que ce soit pendant mes stages, j'ai été encadrée par différentes chercheuses. J'ai fait ma thèse sous la direction de femmes. Le laboratoire où je suis actuellement est dirigé par une femme. J'ai pas eu cette impression que c'était compliqué pour les femmes, j'ai toujours été bien encadrée. Mais quand je suis arrivée en thèse et que je suis rentrée dans le métier de chercheur, on commence à s'intéresser un peu aux coulisses, entre guillemets. Là, j'ai vu que j'avais eu beaucoup de chance. La place de la femme en recherche, c'était pas évident. On estime en France qu'il y a 29% des chercheurs qui sont des chercheuses. Donc on est très loin de la parité. J'ai fait de l'écologie théorique et de la modélisation. Et c'est vrai, quand je suis allée à mon premier congrès spécifique en écologie théorique et en modélisation, j'ai vu qu'il y avait un sexe ratio qui était biaisé et qu'il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes. Après, je pense que ça ne doit pas du tout freiner d'y aller. Les femmes ont tout à fait leur place en recherche, comme tout le monde. Pour moi, la seule chose qu'il faut pour la recherche, c'est être curieux et passionné et un peu persévérant parce que faut trouver des solutions et parfois ça fonctionne pas. Mais c'est pas une question de genre, d'origine sociale, d'origine multiple et variée. Enfin, pas du tout. Donc il faut vraiment y aller. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Après, je postulais au prix L'Oréal Jeune Talent parce que j'ai eu la chance d'être très bien entourée et de pas me remettre en question. Le fait que je fasse de la recherche, c'est pas quelque chose qui sort de ma normalité. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des jeunes femmes qui avaient pas cette chance-là d'avoir un environnement dans lequel elles se sentent à l'aise et que peut-être elles peuvent se dire qu'elles n'ont pas leur place. Et ça me tenait aussi à cœur d'être peut-être un modèle pour ces jeunes femmes qui auraient besoin d'un peu de modèle pour se lancer.
Pourquoi il y a peu de femmes scientifiques ? Est-ce que c'est une place pour les hommes ? Comment on accueille les femmes dans ce métier ?
Il n'y a pas que en recherche. Le prix Nobel d'économie a bien montré que c'était pas que en recherche, mais qu'il y a un vrai décrochage arrivé à un certain niveau, qui est l'arrivée du premier enfant. Et on a encore une société qui est orientée vers les soins parentaux, notamment au début pour des soins maternels, en fait, tournés vers la mère. La recherche, c'est un milieu très compétitif. Il y a très peu de postes, c'est pas évident, ça demande un gros investissement au niveau du temps, d'énergie, de temps de cerveau disponible. Et c'est pas toujours compatible, dans la tête en tout cas, en se dire je veux faire une famille, alors qu'à côté, on a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc c'est pas forcément évident de réussir à bien allier la vie privée et la vie professionnelle en recherche. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vient de là et on le voit dans nos laboratoires. En fait, en thèse, on a effectivement des sex ratios qui sont représentatifs de la société. Et ensuite, quand on a au niveau des prises de poste et plus encore des prises de poste après à responsabilité, on a ce décrochage qui est visible. Donc je pense qu'il y a vraiment cette histoire de maternité qui joue beaucoup. Par exemple, on a tendance à coopter les personnes de même genre que nous. Donc, quand on va devoir citer quelqu'un, un nom d'un collègue, on va avoir tendance à citer quelqu'un du même genre que nous. Vu qu'il y a déjà beaucoup d'hommes en haut, ils vont avoir tendance à citer aussi des hommes et il va falloir se battre un peu plus en tant que femme pour avancer à ce niveau-là. Mais c'est pas impossible. Les choses vont dans le bon sens. Clairement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui ont envie de faire des carrières en recherche. On voit de plus en plus de femmes dans les laboratoires, donc c'est super. Les choses vont dans le bon sens. On est encore pas très bon. 29% de femmes en recherche en France. À l'échelle mondiale, on est à 33%. Donc la France est un petit peu en retard. Il faut continuer. Femmes, comme n'importe qui, ont leur place dans un laboratoire de recherche. La recherche, ce n'est pas neutre. On répond à des questions qu'on s'est posées. Et les questions qu'on s'est posées, ça va dépendre de qui on est, de notre expérience, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a appris. Le fait qu'on n'ait pas une représentation de la société dans son ensemble, ça va être dommageable pour l'avancée de la connaissance. Donc il faut que la recherche, ça soit le reflet de la société pour pouvoir se poser toutes les questions nécessaires pour faire avancer la société dans le bon sens. Pas en se disant « Ah, mais si on a que des hommes, ils vont jamais poser les bonnes questions », c'est que bah, parfois on n'est pas au courant que le problème existe et du coup, bah, on se pose pas la question et on cherche pas les réponses. Donc c'est important que l'ensemble de la société, que ce soit les femmes ou que ce soit toutes les autres catégories sociales, soient représentées.
Vous avez eu une dotation de 20 000 euros pour votre recherche « Lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs ». Donc 20 000 euros pour poursuivre vos travaux de recherche. Alors quelle sera la suite de ces recherches ?
Alors le prix permet de continuer notre carrière en recherche, mais ne doit pas se substituer aux obligations du laboratoire. Par exemple, je ne peux pas embaucher un stagiaire avec ce prix, je ne peux pas payer mon salaire avec ce prix. Donc il faut que ce soit des choses qui effectivement vont m'aider dans ma carrière, mais qui ne doivent pas se substituer à ce que le laboratoire est censé payer. Donc là actuellement, j'ai prévu de participer à des conférences pour présenter le travail que je mène actuellement, donc quand on aura les résultats, à l'international, présenter ce qu'on a fait, aller visiter des laboratoires à l'étranger pour essayer de comprendre eux comment ils fonctionnent, quelles sont leurs techniques, quelles sont leurs questions, parce qu'on suit le travail des collègues à l'étranger en lisant leurs articles scientifiques. C'est un peu comme si on lisait une notice et on essaye de deviner comment ça fonctionne, mais c'est toujours mieux d'aller voir sur place concrètement comment ça marche et comment ils font. Donc il y a ça, et il y a aussi des formations. Quand j'étais étudiante, tout ce qui était intelligence artificielle, machine learning, etc., c'était vraiment au tout début, et on n'en parlait pas trop. Et finalement, aujourd'hui, en écologie, on utilise de plus en plus beaucoup de données qui ont besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle pour l'analyse. J'aimerais bien me mettre à niveau pour pouvoir effectivement être plus performante à l'avenir dans ces parties-là.
On va parler un petit peu du temps hors travail de chercheuse. Vous avez eu aussi le temps de créer des podcasts qui s'appellent Tata Doc. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors effectivement, j'ai lancé il y a un peu plus d'un an maintenant un podcast qui s'appelle Le Journal de Tata Doc, qui est un podcast qui un peu pour vocation de dépoussiérer l'image du chercheur et de rendre plus accessible le travail de chercheur ou de chercheuse. Je me suis rendu compte en parlant avec mes proches que le travail de chercheur, c'est très flou. On ne sait pas du tout ce qu'on fait, ni comment c'est fait. Ça me paraissait important aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, surtout que j'ai eu l'impression, et mes collègues aussi, qu'avec la crise du Covid, il y a eu une perte de confiance dans la recherche, dans la science, avec des personnes qui pensent qu'on fait de la recherche un peu n'importe comment et puis que les résultats, ils sortent du chapeau et puis finalement, c'est pas fiable. Donc ça me tenait aussi à cœur de montrer vraiment au quotidien le travail qu'on mène, le travail que moi je fais, mais aussi que mes collègues font, expliquer comment ça fonctionne, le nombre de vérifications qu'on a, le temps que ça prend, la mise en place des expériences, les échanges qu'on a avec les différents collègues avant qu'il y ait l'article qui soit publié et dont on entend parler après dans les médias. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, je voulais aussi parler un peu plus d'écologie, aussi parfois un peu de sujets d'actualité, une recherche qui m'a bien plu, qui m'intéresse. J'invite aussi des collègues qui font de la recherche en écologie pour qu'ils présentent leurs travaux et qui donnent aussi une autre vision de l'écologie. L'écologie, c'est l'étude des écosystèmes, donc c'est super, super vaste.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces podcasts, Élise ?
Alors, ils sont disponibles sur Internet, sur à peu près toutes les plateformes qui permettent d'écouter du podcast.
On fait Tata, plus loin, Doc et apostrophe, et
oui,
on trouve.
Probablement, oui. Peut-être en tapant le journal de Tata Doc.
Le journal de Tata Doc.
On devrait trouver sans trop de problèmes.
On arrive bientôt à la fin, Élise. J'espère que tout s'est bien passé.
Tout s'est très bien passé, oui.
Quel est votre insecte préféré ?
Alors, j'aime beaucoup les bourdons. Bon, ça va être très subjectif, ce que je vais dire. Mais je les trouve très mignons. Ils sont tout ronds, tout dufteux, tout dodus. Quand ils visitent les fleurs, ils mettent du pollen partout. Ils sont assez amusants. Pour ma thèse en écologie théorique, je me suis quand même basée sur des vrais travaux. Et beaucoup de travaux étaient faits sur le bourdon. Je pense aussi d'avoir lu beaucoup d'articles sur comment fonctionne le bourdon, etc. Ça a augmenté mon appétence. Il est vraiment très mignon, avec ses petites fesses toutes rondes, etc. Voilà.
Très bien. Quelle sera votre prochaine étape dans votre recherche ?
Alors, à court terme, mon contrat pour le projet BeConnected s'arrête au 31 janvier 2024. Et j'aurai terminé l'analyse de données et on sera dans la rédaction de l'article scientifique, de la mise en forme, etc. Donc probablement que les résultats seront diffusés fin 2024, début 2025. Et puis vraiment d'un point de vue un peu plus personnel, je suis en train de chercher la suite. Je suis en train de regarder pour un poste qu'on appelle d'enseignant-chercheur, donc faire de la recherche et de l'enseignement, c'est quelque chose... J'ai enseigné en thèse et j'ai adoré ça. Donc pouvoir à la fois faire de la recherche et continuer de faire de l'enseignement à la fac. Donc je suis en train de chercher ce poste-là.
En tout cas, merci Élise d'avoir répondu à notre invitation. On va vous souhaiter de trouver plein de solutions pour nos amis les abeilles.
Merci à vous pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
RVM, c'était Élise Verrier, chercheuse d'exception en écologie comportementale. À réécouter en podcast sur notre site www.radio-valois-mulcien.fr. Bonne écoute sur RVM.